Disons-le clairement, hier, aujourd'hui ou demain, pour vous, ça n'est jamais le moment de réformer l'assurance chômage. Depuis plus d'un an, le gouvernement mobilise des moyens inédits pour lutter contre le chômage et la précarité. Il n'a de leçon à recevoir de personne sur la protection des plus fragiles.
Eh bien justement, c'est ça le cœur du sujet. Au moment du quoi qu'il en coûte, faire une réforme de l'assurance chômage qui permet 1 milliard d'économies, d'abord par la baisse des indemnités pour les nouveaux inscrits et les fins de droit. À l'Assemblée nationale, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, défend son texte face aux députés. Il est moins dur que la dernière version, il est contre la précarité, pour l'équité. Et puis, de nouvelles règles, en place en juillet, au moment où l'activité devrait repartir. C'est logique. Plus que la logique, c'est quand même l'espoir qu'on devine. L'espoir qu'il y aura bientôt le retour à la normale, l'espoir d'une reprise forte, l'espoir de recrutement. Et puis cette idée que des allocations plus faibles, les demandeurs d'emploi seront incités à retravailler plus vite. Bon, la réalité, c'est quand même que tout ça, c'est un pari. Que va-t-il se passer sur le marché du travail à la fin du quoi qu'il en coûte? Ça, personne ne le sait. Et puis, bien sûr, c'est un coup de dé politique. La réforme, les marcheurs qui ne s'arrêtent pas, un signal pour 2022 sur l'assurance chômage, qui est un sujet bien moins inflammable que la réforme des retraites.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
On n'arrête pas l'écho, nous aussi, tous ensemble jusqu'à 10h avec les réalisatrices Juliette Gou et Lauriane Toulmont, avec Valentin Pérez qui prépare cette émission avec moi, et puis avec Julien Dumont à la console. Les débatteurs aussi sont là, Laurent Bigorne, le directeur de l'Institut Montaigne. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Et bonjour Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternatives Économiques.
Bonjour.
L'assurance chômage, Christian.
Non mais les bras m'en tombent. Honnêtement, est-ce qu'en pleine pandémie mondiale, la première priorité du gouvernement, c'est de réduire la protection sociale? Ça va au-delà de la conjoncture que vous avez signalée, Alexandra. Est-ce que les emplois vont revenir ou pas? C'est la vision du chômeur qu'a ce gouvernement. Le chômeur, c'est un glandeur assis sur son canapé qui regarde des séries. Il faut lui mettre un coup de pied aux fesses en lui cassant ses droits. Sinon, il va pas aller travailler. C'est ridicule. C'est une vision surannée, libérale, thatcherienne. Va falloir qu'on s'en débarrasse en 2022.
Il y a un petit souci de dette quand même à l'UNEDIC. Laurent, qu'est-ce que vous en pensez?
Il y a un petit souci de dette, c'est bien la preuve qu'il aurait fallu s'en soucier avant. Autre chose, parce que cette réforme, au fond, pose un problème plus général. On s'approche de plus en plus de l'élection présidentielle, que manifestement Christian attend beaucoup. Il va bien falloir, à un moment ou un autre, être capable de revenir. Plus la pandémie, on espère tous, à partir du printemps, aura tendance à refluer. Il faudra revenir à une économie plus normale. Et c'est, à mon avis, quand même tout l'enjeu qui est posé et qui dépasse le débat sur l'assurance chômage.
Bon, on en reparlera de ce dossier. Le débat ce matin, c'est le dossier Danone. Le patron mis sur la sellette par les actionnaires. Alors, est-ce que c'est le baptême du feu pour une entreprise à mission emblématique qui avait dit qu'elle voulait se soucier d'autre chose que du profit? Ou bien est-ce qu'il y a encore autre chose à lire derrière? Quelle leçon sur le capitalisme dans le monde d'après? Christian, Laurent, nous nous retrouvons dans quelques secondes. Le temps de vous donner le reste du programme. On va beaucoup parler de dette et de déficit ce matin, de trous dans les comptes. D'abord avec nos exportations, encore à la peine en 2020, le déficit commercial s'est creusé. Vous entendrez le reportage d'Anaël Verzo. Et puis ensuite avec notre invité, alors c'est une star aux États-Unis, c'est la figure d'une nouvelle théorie, la théorie moderne de la monnaie. Elle affirme que les déficits des États ne sont pas un problème, mais une solution. C'est le monde à l'envers, et vous imaginez que ça crée une grosse polémique, mais aussi beaucoup d'intérêt. Interview de Stéphanie Kelton, c'est son nom, à 9h45. Ce sera juste avant les réponses de Sandrine Foulon à vos questions de vie au boulot. Mais tout de suite, on commence par là, le débat. Est-ce que Danone est l'exemple de l'échec du capitalisme à visage humain ?
24 novembre 2020.
Le double projet économique et social d'Antoine Riboud, il est économique et social.
Emmanuel Faber, PDG de Danone.
On est sur des équilibres qui sont des tensions permanentes et c'est très compliqué dans le monde dans lequel on vit. Je me dois de les assumer. J'ai dit que nous avions un devoir d'utopie en tant que dirigeant, mais on a un droit absolu au pragmatisme. Et c'est l'équilibre entre les deux qu'il faut arriver à trouver. J'ai la confiance du conseil et de la famille Riboud, je l'espère, mais je n'ai pas peur de perdre mon job, j'ai peur de mal le faire.
2 mars 2021.
Emmanuel Faber a préféré avait lâché un petit peu de lest et donc les fonctions de directeur général et de président vont donc être dissociées. Il garde, lui, celle de président.
Hier soir, le conseil d'administration a décidé de dissocier les fonctions de directeur général et de président du groupe agroalimentaire français. La décision est loin d'être anodine. Concrètement, elle revient à pousser à la porte Emmanuel Faber. Le Français de 57 ans devra quitter son poste de directeur général de Danone.
Au moment où, sous la pression des opinions publiques,
Élie Cohen, économiste,
les entreprises éprouvent le besoin de prendre un tournant, la logique capitaliste reste imperturbable.
Directeur de recherche au CNRS.
Tant que les options écologiques, humanistes, etc. collent avec le taux de rendement moyen du secteur, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous constatez, comme avec Danone, un gap de 35% en termes boursière, à ce moment-là, les actionnaires, ils se réveillent et ils disent non, désolé.
Oui, bien sûr, on regrette la mise sur la touche d'Emmanuel Faber, on regrette les conditions dans lesquelles ça s'est fait, les raisons pour lesquelles ça s'est fait.
François Auméril.
Vous avez quelques petits actionnaires, en l'occurrence ici deux actionnaires dits minoritaires.
Président de la CFE-CGC.
Ce sont des gens qui n'apportent rien à l'entreprise, ils n'ont pas investi un seul centime dans une machine, dans un nouveau produit, ils veulent simplement faire du bénéfice et du bénéfice rapide, et ils considèrent que l'action a un potentiel supplémentaire.
Avant d'avoir une raison d'être, il faut être. Et être pour une entreprise, c'est de faire du profit.
Jean-Marc Daniel.
Le fondement même du mécanisme économique de base, c'est que l'entreprise doit maximiser son profit.
Professeur émérite d'économie à l'ESCP.
Mais je crois que ce qui sort fragilisé de cette affaire, c'est l'état d'esprit qui a conduit à la loi Pacte et à la réforme du code civil sur la mission de l'entreprise. Et donc je pense que là, il y a un certain nombre d'entreprises qui vont y regarder à deux fois avant de s'engager dans cet état d'esprit à la mode et politiquement correct.
Christian Chavagneux, décidément, on vous énerve ce matin. Christian, racontez-nous ce qui se passe chez le géant français de l'agroalimentaire Danone, au lieu de hocher la tête comme ça, en dénégation.
Alors, vous avez trois fonds d'investissement, deux américains et un britannique, qui sont actionnaires de Danone et qui contestent la gestion du patron de l'entreprise, Emmanuel Faber. Trois critiques sur la table. D'abord, une orientation stratégique peu lisible. Alors, c'est vrai que quand on regarde 5 restructurations en 6 ans, on se dit que la stratégie n'est pas très, très stabilisée. La dernière, c'est fin 2020. Elle promeut une réorganisation par pays au lieu d'une organisation par produit, les eaux minérales, les aliments pour bébés. C'est un truc quand même qui change beaucoup. Donc là, on se dit, il y a encore 3-4 mois, on ne savait pas trop où allait l'entreprise. Donc la critique peut-être est justifiée. Deuxième critique, une forte concentration des pouvoirs. Emmanuel Faber a été directeur général, puis président directeur général. À mon avis, c'est jamais bon de cumuler les deux fonctions. Le directeur général, il a le volant, le président, il a le GPS, il regarde le chemin. Si vous faites les deux à la fois, vous risquez la sortie de route. Et troisième critique, une rentabilité insuffisante. En 2020, 14% de marge opérationnelle contre 18% pour Nestlé, l'un des principaux concurrents. Vous vous dites, quand l'économie mondiale plonge complètement, arriver à chaque fois que vous faites 100 de chiffre d'affaires à sortir 14 de profit, ou 15 ou 17, c'est quand même pas mal. Donc là, vous vous dites, ça y est, je comprends en fait la vraie logique de ces fonds d'investissement. Ils repèrent des entreprises qui sont un peu en difficulté, ils regardent la stratégie, le patron, et s'ils ont l'impression qu'il y a une stratégie possible pour booster le rendement, uniquement le rendement financier, ils achètent des actions. C'est ce qu'ils ont fait, ces trois fonds sont actionnaires de Danone depuis l'an dernier seulement. Mmh. Et leur objectif est purement financier, il faut que ça crache.
Laurent, est-ce que vous avez la même grille d'analyse que Christian ?
Je partage assez les deux premiers points de Christian, c'est-à-dire qu'il y a une interrogation sur la stratégie, il y a une interrogation sur le management, et je pense que les colonnes des journaux s'en sont énormément fait l'écho. Il y a aussi la crise que vient de traverser Danone, qui la fragilise, fermeture des cafés et restaurants, ce qui fait que le minéral en bouteille se vend beaucoup moins. La nutrition infantile plonge, puisque la natalité en Europe et en Chine a plongé. Et c'est vrai que les concurrents de Danone, que ce soit Unilever, l'anglo-néerlandais ou Nestlé, le suisse, ont énormément pris pendant la crise, y compris parce qu'ils étaient mieux positionnés, j'allais dire par chance, sur un certain nombre de secteurs. Maintenant, il faut peut-être dézoomer. Rappelez-vous que il y a eu une première grande aventure Danone, ou en tout cas grand débat, grande controverse en 2004-2005, quand Pepsi a pointé son nez pour dire « bon, nous on aurait envie de se consolider Danone et de faire un géant mondial ». Et à l'époque, on a dit, écoutez, on fera barrage et on protégera un actif qui est un actif national. Alors, je reviens pas sur ce débat qui a tort, qui a raison, mais c'est sûr que quand vous dites à une entreprise pendant 15 ans que de toute façon, elle n'a aucune chance d'être achetée un jour, qu'elle est protégée d'une certaine façon par le patriotisme économique, eh bien, vous risquez de créer, je dis bien vous risquez de créer le décalage de marge que vient de souligner Christian, c'est-à-dire que tendanciellement, l'entreprise va moins faire d'efforts que si elle était exposée à des risques. Il y a des vrais risques, par exemple, d'OPA ou tout simplement au risque de tomber entre d'autres mains. Et on a une marge opérationnelle chez Nestlé. Ça n'a rien à voir avec les options qui ont été choisies tout récemment, même si évidemment, c'est des options qui sont traditionnelles chez Danone. On connaît l'attachement d'Antoine Riboud, son fondateur, à la logique également sociale. Mais on a une entreprise qui est tendanciellement plus faible, tendanciellement moins innovatrice.
Donc vous nous dites que les fonds ont raison de leur mettre un petit coup d'aiguillon. C'est ça
oui,
que vous êtes
en train
de dire.
Oui, si ça n'avait pas été les fonds, ça aurait sans doute été la gouvernance, je l'espère, à un moment ou un autre.
Il y a un moment, il y a une pression de plus en plus forte de la société civile pour dire à une entreprise non, les profits, seulement les profits, comme disait Milton Friedman au début des années 70, ça ne marchait pas. Je voudrais vous citer trois lignes d'Antoine Riboud, 1972, le fondateur de Danone, hein, Antoine, vraiment le fondateur, en 72, devant 1800 patrons hyper hostiles du CNPF, c'est comme ça qu'on appelait le MEDEF à l'époque. Le discours d'Antoine Riboud. Nous devons nous fixer des objectifs humains et sociaux. C'est-à-dire quoi? Nous efforcer de réduire les inégalités excessives en matière de conditions de vie et de travail. Incroyable. Et d'autre part, quelle modernité. Nous efforcer de répondre aux aspirations profondes de l'homme, trouver les valeurs qui améliorent la qualité de sa vie en disciplinant la croissance. Il y a tout le discours moderne d'aujourd'hui politique. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? Alors vous avez le Financial Times, fin 2019, qui nous dit il faut un reset du capitalisme, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit plus humain, plus social, plus environnemental. Ça suit le Business Roundtable, le plus gros lobby américain de l'entreprise, pour dire faut aller dans ce sens-là. La réponse française, ça a été quoi? La loi Pacte. Une obligation, et rappelons-la, ça va être important, je pense, pour notre débat, la modification de l'article 1833 du Code civil qui dit l'entreprise doit désormais être gérée en prenant en compte toutes les entreprises, en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Ça, c'est l'obligation pour toutes les entreprises. Et puis, des possibilités, on peut inscrire une raison d'être dans ses statuts. Danone, Emmanuel Faber avait fait inscrire « apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre ». Et on peut aussi afficher concrètement des objectifs en devenant une société mission, la seule grande du CAC 40 qu'il soit, c'était Danone. Honnêtement, ça n'a pas beaucoup marché. Il y a 85 sociétés à mission.
Oui, et même
en
les raisons d'être, ça ressemble parfois à des slogans publicitaires quand
exactement.
Même. Hein,
et puis au premier coup de grisou, à la fin de l'année dernière, Emmanuel Faber a dit hop, je licencie 2000 personnes pour avoir. Qu'est-ce que ça veut dire
ouais.
C'est l'économiste français Olivier Favreau qui l'avait expliqué dès le début avec la loi PAC. Il avait dit avec l'entreprise à mission. Alors, pour avoir une raison d'être et devenir une entreprise à mission, il faut que ce soit accepté par au moins les deux tiers des actionnaires. Chez Danone, 99% avaient accepté. Et avec ça, on va protéger les dirigeants d'entreprise qui veulent jouer un rôle social, la voracité des actionnaires et des critères purement financiers. Danone montre que cette loi Pacte, elle passe complètement à côté. 1% d'actionnaires qui ont refusé les évolutions ont tué les 99% qui la souhaitaient. C'est pas une garantie de décision démocratique dans l'entreprise. La loi Pacte est passée à côté.
Est-ce que c'est ainsi, Laurent Bigorne, que vous voyez ce dossier-là, cette évolution chez Danone? Est-ce que c'est le baptême du feu d'une entreprise à mission?
Non, moi je ne vois pas du tout comme ça. Il y a eu énormément de débats autour de la loi Pacte. Je rappelle qu'il y avait des arguments de deux ordres. Il y avait ceux qui disaient... peut-être du côté de l'entreprise, attention, il faut arrêter de faire de la politique, hein, et je reviens effectivement à la phrase de Friedman, hein, business of business is business, hein, ce que doit faire le business, c'est de faire du business, et pas autre chose. Et puis il y avait du côté des ONG, de l'économie sociale et solidaire, des gens qui disaient ce que vous venez un peu de dire, Alexandra, mais on ripolline. Et en réalité, c'est pas parce qu'on va devenir entreprise à mission qu'on va changer quoi que ce soit. Moi j'aimerais revenir aux deux questions qui sont posées après. La séance de lundi dernier après un conseil d'administration qui a vu ce qu'on appelle la dissociation, Christian a rappelé, des fonctions de président et de directeur général. Est-ce que cette pratique de dissociation est anormale ou serait scandaleuse, aurait quoi que ce soit à voir avec un débat sur entreprise à mission? Non, c'est de la bonne gouvernance, c'est laissé à la main des entreprises. Il y a plein d'exemples en France, L'Oréal, Valeo, Score, qui s'apprêtent à dissocier les fonctions. Et on trouve au sein du SBF 120, plus de la moitié aujourd'hui des entreprises qui vont être en situation de dissociation. C'est la même chose aux États-Unis, il y a une montée en puissance de ce schéma de dissociation.
Et est-ce que je peux ajouter, c'est une mode? Hein, c'est-à-dire qu'avant, on a eu la mode du PDG.
Je pense que c'est un mouvement de fond. C'est un mouvement
aussi,
de fond.
Je pense que
mais est-ce qu'on n'a pas eu avant la mode du PDG? On met tout un seul homme pour diriger, c'est plus facile. Et là, on dit, bah non, deux, en fait, c'est mieux.
Oui, mais je pense que ça correspond aussi à un moment où on voit bien qu'il y a de plus en plus d'interactions avec les régulateurs. Enfin, comme je trouve que la métaphore de Christian est bonne. Hein. Il y a le volant, il y a le GPS.
Bon.
Et ensuite, c'est différent dans certains types d'entreprises. Par exemple, dans le capitalisme familial. Et encore, on voit de plus en plus de boîtes familiales où il y a un président et un DG. Y compris parce que la succession, ça se prépare, etc. Deuxième question. Est-ce que les activistes s'en prennent à la politique RSE, donc de responsabilité sociale des entreprises.
Et environnementale.
Alors, il y a une, exactement, environnementale et sociale. Alors, il y a une étude publiée en avril 2000 par Rodolphe Durand, HEC, et Marc Desjardins, à l'université Pennsylvania State University, qui montre que, effectivement, les entreprises responsables ont une probabilité plus forte d'être ciblées par une campagne de déstabilisation parce que la mise en avant de la RSE, donc de la responsabilité sociale et environnementale, serait un signal ou perçu comme un signal distinctif que l'entreprise ne maximise pas la valeur pour l'actionnaire. Avec deux facteurs et qui corrigent ça. D'abord, les auteurs disent, si elles ont une bonne communication financière et si elles ont une bonne communication RSE équilibrée, les choses ne sont pas, ne se passent pas de la même manière. Pourquoi ? Deuxième raison, parce qu'on accroît la part des investisseurs institutionnels de long terme. Donc moi, ce que j'aimerais dire, c'est que plutôt que de monter sur un tonneau pour dire les activistes sont pas gentils, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, il y a des très mauvais activistes, il y a des activistes qui rendent service, me semble-t-il, à la gouvernance de l'entreprise. La question est de savoir pourquoi est-ce qu'en France, pourquoi est-ce qu'en Europe, on n'a pas plus d'acteurs institutionnels. Pourquoi est-ce qu'on a accepté des régulations financières après la crise de 2008 unilatéralement en Europe qui brident l'industrie financière européenne et qui font qu'aujourd'hui on a de moins en moins d'institutionnels dans nos entreprises? Alors, c'est ça la question.
Je ne partage pas du tout cette analyse. Les fonds activistes, ça fait partie des dérives de la finance. D'abord, c'est des actionnaires qui ne contribuent pas au capital des entreprises. Vous avez des investisseurs qui viennent fonder des entreprises et eux, ils arrivent après.
Dans le cas de Danone, ici.
Ils arrivent après. Il est arrivé l'année dernière.
Oui, 3% de la boîte, il est le troisième actionnaire de la boîte.
Alors, c'est pas le chien qui remue la queue.
On peut pas dire que c'est rien. Il est le troisième actionnaire de la boîte.
Ok, mais c'est un actionnaire qui contribue pas au capital de l'entreprise. Il s'est contenté d'acheter d'acheter l'entreprise qui existait déjà.
Il détient plus d'un milliard.
Je suis d'accord, mais il est pas du tout intéressé. On l'a vu, c'était la démonstration Artisan et les deux autres fonds. Pas du tout intéressés par ce qui se passe. Ils sont uniquement intéressés par ce qui se passe sur le marché secondaire de l'action. Si je l'achète à 100, est-ce que je peux la revendre à 110 ou pas? L'activité de l'entreprise, que ce soit des eaux minérales, du pétrole ou des clamelettes, ils s'en foutent complètement. L'économie réelle ne les intéresse pas.
Je finis.
Sous prétexte qu'ils sont parmi les plus gros actionnaires, comme vient de le dire Laurent, parce que j'ai quand même 3% du capital, j'ai mis un milliard sur la table, et seulement depuis quelques mois, ils viennent avec quelques pourcents perturbés, ce que 99% des actionnaires avaient décidé. Je suis désolé, mais 1% ne peut pas dire que ce que fait les 99%, ça va pas. Donc, ce sont des fautes qu'ils font réglementer. Et c'est pas dit d'ailleurs que ce qu'ils ont fait chez Danone ne soit pas hors la loi, puisque le code civil nous dit que l'entreprise doit être gérée en prenant en compte les enjeux sociaux environnementaux. Je ne suis pas sûr que ce qu'ils ont fait colle avec l'article du code civil, à voir avec les avocats.
Bon, en 3 secondes, allez-y.
Oui, je pense qu'on est un peu sur une vision caricaturale. Ils ont fait des propositions, y compris en termes d'hommes pour la gouvernance et des gens qui sont connus sur la place de Paris. Donc je pense qu'on est là, on n'est pas là dans un grand débat, on est là dans une question d'entreprise, d'abord et avant tout.
Allez, voilà pour le capitalisme financier. J'avance, je passe à un autre modèle, le capitalisme d'État. Est-ce que vous voyez où je vous emmène ? En Chine, bien sûr. Bonjour, André, vous êtes la correspondante de France Inter en Chine. Dominique, pour Pékin, la page Covid semble tourner. Le Premier ministre Li Keqiang vient de définir l'horizon. C'est un nouveau modèle de développement pour 2035.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous. C'est toujours un moment impressionnant de voir ces quelques 3000 délégués qui sont réunis sagement avec le comité permanent qui dirige la Chine sous le drapeau rouge du Parti communiste. La plupart portaient un masque, bien qu'aucun cas local de Covid n'ait été détecté à Pékin depuis maintenant plus d'un mois. Alors Li Keqiang s'est montré optimiste mais prudent. Il a annoncé qu'il tablait sur une croissance d'au moins 6% cette année, donc en dessous des 8% prévus par le FMI. Pékin est sûr de l'atteindre sans trop de difficultés. L'essentiel, a dit le Premier ministre, c'est une croissance de qualité et non de quantité. Il veut réduire la dette qui a atteint 270% du PIB fin 2020. L'économie réelle, c'est le refrain de M. Li qui veut écarter la menace persistante de la bulle immobilière qui est un danger négligé en Chine depuis des années. Son objectif, c'est de créer 11 millions d'emplois urbains en 2021. Le tournant majeur, c'est donc le nouveau plan de développement de la Chine qui va bien au-delà du 14e plan quinquennal avec avec un projet baptisé Vision 2035.
Et Dominique, quelles sont les priorités économiques de Monsieur Li ?
Le marché intérieur, car l'économie chinoise dépend encore trop des exportations. On l'a vu l'an dernier quand le virus a paralysé la planète entière. L'autre priorité, c'est la bataille technologique et environnementale. La Chine dépend là aussi de l'étranger. Pour les hautes technologies, la guerre commerciale sino-américaine a révélé les faiblesses chinoises. Vous vous souvenez des sanctions sur les puces électroniques imposées par l'administration Trump. La Chine veut une autonomie technologique et augmente son budget recherche et développement de 7% par an pendant 5 ans. Un mot tout de même sur l'innovation et ses limites, puisque Li Keqiang a annoncé aussi que la réglementation qui encadre les entreprises de la tech, suivez mon regard, comme Alibaba, Tencent, etc., allait être encore durcie. La tech et les grands champions de l'économie numérique en plein développement en Chine doivent aussi s'incliner devant les règles imposées par le Parti communiste.
Dominique André à Pékin, merci à vous, merci aux débatteurs du Mag'Éco, Christian Chavagneux et Laurent Bigorne, il est 9h33 sur France Inter. L'invité dont n'arrête pas l'écho ce samedi, c'est une économiste américaine renommée et contestée. Rendez-vous dans 10 minutes avec Stéphanie Kelton. On va parler avec elle des déficits. Évidemment, c'est un sujet qui nous intéresse, un majeur pour la France, un pays avec de fortes dépenses publiques, avec un fort déficit public et encore un déficit du commerce extérieur qui se creuse. Nous commençons par là, nos exportations. Allez, on sort du studio, direction la Lorraine. On va prendre un bon bol d'air avec notre reporter Anaëlle Verzo et se remplir les yeux avec cette vigne bien peignée des côtes de Toul.
Ah, on respire bien là. On est en hauteur et il y a un bon air pur.
Quand c'est dégagé, on a une vue qui est assez loin sur la plaine de la Loire, qui nous amène jusqu'à la vallée de la Moselle, là, qui a 5 km. Et en fait, les côtes de Toul, c'est le premier vignoble sur la vallée. Mmh. Et donc ici, on est au cœur des côtes de Toul, à Lucet. La spécialité des côtes de Toul, c'est le gris de Toul. Hein. En fait, on a des importateurs qui nous l'achètent. Alors ici, en Europe, proche, puisque la frontière allemande et belge sont à 1h30. Mais on en a aussi au Japon, aux États-Unis, voilà.
Et au total, c'est quel pourcentage de votre vin qui part à l'export ?
Alors, on a une vingtaine de pourcents de notre activité qui est faite vers l'export. J'aime voyager, puis j'aime savoir que mes vins voyagent aussi.
Et en ce moment, ça se passe comment, l'export ? Ça doit être plus compliqué, j'imagine, avec la crise sanitaire.
Oui, l'export est plus compliqué, mais tout est plus compliqué. Sur les États-Unis, notamment, il y a deux choses qui se sont télescopées. Il y a le Covid. Et en plus, depuis octobre 2019, l'administration Trump a mis en place des taxes sur les vins qui ont augmenté la valeur de 25%. Donc c'est assez brutal.
Et cette augmentation de 25%, c'est uniquement sur les vins français ou...
C'est sur les vins qui sont issus de pays qui ont des intérêts dans Airbus.
Vous êtes les victimes de cette...
On est des dommages collatéraux.
Alors du coup, tout ça au total, ça fait que vous avez perdu combien sur l'année ?
Eh bien, nos exportations vers les États-Unis, je crois que ça a été divisé par deux. Même si les vins sont toujours en cave, qu'à un moment ou à un autre, ils seront vendus, qu'on n'a pas détruit nos vins.
Heureusement, parce que...
Certains l'ont fait, pour éviter que les cuves soient engorgées au moment des vendanges. Et un an après le début de la crise... Les États-Unis sont en train de sortir d'un espèce de tunnel. Ils voient la lumière au bout du tunnel. Et du coup, on a l'impression que ça reprend.
Et ce matin, avec la trêve franco-américaine sur le dossier Airbus-Boeing, tous nos viticulteurs, hein, à Toul et ailleurs, voient sans doute la lumière au bout du tunnel. Bon, en 2020, de toute façon, toutes les entreprises exportatrices ont eu droit au Covid, à la crise économique, et puis dans l'industrie, à la désorganisation des chaînes de production. Et en plus, nous avons importé pour 6 milliards de masques. Le résultat comptable de tout cela, c'est que notre déficit commercial s'est encore creusé à 65 milliards d'euros. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'en 2020, nous avons plus reculé que les autres. Nous avons perdu des parts de marché. Alors que se passe-t-il ? Que faire ? C'est le reportage d'Anaëlle Verzo, qui pour le moment, bon, s'attarde un peu à la cave.
Cette palette-là, elle va partir en Californie à midi.
Comment il s'appelle votre vin, David ?
Moi, je suis David Lelièvre. La maison Lelièvre, on produit les vins Lelièvre. En fait, avant de venir au domaine, de revenir en Lorraine, Vincent, mon frère et moi, on a passé 10 ans hors Lorraine.
Vous étiez où pendant ces 10 ans ?
Vincent, il a vinifié un peu partout en France, en Allemagne, en Australie, en Californie. Et moi, j'ai vendu du vin et géré des domaines viticoles en Allemagne et en Espagne. Donc normalement, on couvre déjà une bonne partie du monde. Hein, et les langues qu'on ne maîtrise pas, l'anglais prend le relais. Ouais.
Les aides sont utiles ou pas ?
Oui, c'est toujours utile de se sentir appuyé par les pouvoirs publics, mais c'est pas ça qui fait tout. C'est pas, on n'attend pas après l'aide pour avancer et développer nos marchés à l'export. Mmh. Et on les a pas sollicités en fait. Et on continue à accélérer les rythmes pour pouvoir reprendre le retard qu'on a pris. Donc on a moins besoin des aides que certains, ça c'est sûr.
Et maintenant, si on élargit le spectre, si l'on considère l'ensemble des entreprises françaises, on voit que nos exportations ont baissé de 17% en un an. C'est une baisse deux fois plus importante qu'au niveau mondial. Pour comprendre pourquoi, je vais voir Fabrice Le Sachet, le vice-président du MEDEF.
Alors on a depuis un certain nombre d'années un déficit de notre balance commerciale sur les biens manufacturés. On a à peu près moins 70 milliards d'euros de déficit par an parce qu'on importe beaucoup. On importe à peu près 2/3 de nos produits, et donc notamment d'Asie, beaucoup. On ne produit pas assez chez nous. Alors est-ce que ça veut dire qu'on est mauvais ? Pas forcément. La France est un grand pays exportateur. On est le 4e pays d'exportation pour les services. On est le 6e pays exportateur au monde pour les biens manufacturés. Alors tout ça, ça représente 6 millions d'emplois. Il y a 6 millions de personnes qui vivent grâce notamment aux exportations.
Après, il y a quand même certains secteurs, je pense à l'aéronautique par exemple, qui avaient l'habitude d'exporter beaucoup et qui là se retrouvent bloqués avec la crise sanitaire.
Oui, alors l'aéronautique, ça a chuté d'à peu près de moitié, hein, les exportations liées à l'aéronautique. Évidemment, on pense à tout le tissu de sous-traitants. Et c'est un peu d'ailleurs ce qui pénalise la France par rapport à ses grands voisins. Quand on regarde les chiffres du commerce mondial, ça a baissé à peu près de 9% les exportations à l'échelle mondiale. La France, on est plutôt à moins 17% pour les biens manufacturés. Et ça, c'est vraiment en partie lié au fait qu'on est une très grande nation industrielle en matière aéronautique. Et donc, si l'aéronautique cale, c'est une grosse partie de l'industrie française qui cale et c'est aussi une grosse partie de nos exportations.
Quels sont les autres secteurs qui ont des difficultés à exporter en ce moment ?
L'automobile est un secteur qui est plutôt touché sur le plan des exportations. Après, il y a aussi des secteurs pour lesquels ça va bien. La santé, il y a aussi, je crois, l'ameublement qui se porte plutôt bien. Il y a le luxe qui est quand même une matrice d'exportation qui est très forte. Ce sont des produits qui se vendent très bien à l'étranger.
Vous pouvez me rappeler en deux mots pourquoi la Chine aujourd'hui ?
C'est là où le marché va se relancer le plus rapidement.
Dans le cadre de son plan de relance, le gouvernement cherche à encourager les entreprises à exporter à travers l'alliance entre les chambres de commerce, Business France et BPI France. Une plateforme accessible sur Internet, la Team France Export, regroupe leurs services. Et quand une entreprise appelle, c'est Pedro Novo, le directeur exécutif de BPI France, et son équipe qui décroche le téléphone.
En fait, cette crise que nous avons traversée est assez singulière parce que, de manière un peu contre-intuitive, l'exportation française ne s'est pas arrêtée. Elle a ralenti, mais nous n'avons pas eu un arrêt brutal de l'exportation française. L'industrie a continué de travailler. On est passé d'un moment de sidération à un moment d'organisation et à un moment de reconquête à présent. Le plan de relance export que nous avons mis en œuvre, grâce au soutien du gouvernement, nous permet à la fois d'avoir des ressources financières sur l'accompagnement, avec des chèques VIE, qui permettent de financer 5 000 euros sur le prix de revient d'un VIE dans l'entreprise. C'est le chèque relance export, qui permet de diviser par deux le coût d'une prestation pour aller bénéficier du soutien d'un conseil, d'un expert sur un sujet export. Et ce sont des ressources financières en financement, notamment de l'assurance prospection. C'est grâce à ces nouvelles mesures-là que ces entreprises vont pouvoir aller chercher des nouvelles parts de marché, du chiffre d'affaires et créer également de l'emploi en étant attractives. N'oublions pas la rareté aussi de la ressource humaine dans les régions. Une PME aujourd'hui qui est cliente de BPI France dans les territoires nous manifeste régulièrement qu'elle a du mal à recruter des talents, à les fidéliser. Dans la marque employeur de l'entreprise, si elle n'a pas de l'international ou de l'innovation dans son projet, elle aura du mal à attirer les talents et à garder les meilleurs.
Alors, est-ce que ces difficultés pour exporter sont nouvelles et sont-elles un problème ? Ludovic Subran est chef économiste à Allianz et à Euler Hermès.
En fait, avant la crise Covid, on était déjà malheureusement dans une situation de déficit commercial entre 40, 50, 60 milliards aux pires années malheureusement. C'est dû principalement à notre déficit de compétitivité, que ce soit sur les coûts de production en France, mais aussi peut-être sur le positionnement de nos produits en termes de gamme, de géographie, aller chercher le grand export. Et puis, il y a certainement un sujet aussi très structurel de nombre d'exportateurs. C'est-à-dire qu'en France, on a en effet 120 000 exportateurs. On a sur 10 entreprises qui vont à l'export une année, seulement 3 qui y restent l'année d'après. Et puis aussi, on a un sujet de distribution de l'export. C'est-à-dire qu'en France, 1% des entreprises fait 85% de l'export. En Allemagne, en Italie, on a cette vraie couche d'entreprises de taille intermédiaire. En France, on en a aussi, hein, mais là-bas, c'est elles qui font l'export de volume, de fréquence, et c'est cet export-là qui compte sur le long terme et qui fait qu'un pays peut avoir une balance excédentaire.
Mais est-ce que c'est un vrai problème pour un pays d'avoir un déficit commercial ?
Non, pas du tout. Non, c'est pas un problème, parce qu'en fait, on investit énormément à l'étranger et on rapatrie les dividendes. Donc en fait, notre balance des services plus notre balance, on va dire, financière, équilibre plus ou moins notre position. C'est plus un sujet, ces histoires de balance des paiements déficitaires ou de balance commerciale déficitaire, d'emploi, d'accès, de diversification. C'est-à-dire que c'est pas tant un sujet structurel problématique pour un pays qu'un sujet de la désindustrialisation en France. Moins on exporte, plus il est difficile de conserver des emplois stables, notamment dans l'industrie. Et donc, moi, je pense que une des raisons de faire de l'export et de le faire depuis la France, c'est d'avoir ce bassin d'emploi, d'avoir ces savoir-faire. Et puis surtout, on va pas se mentir, exporter, c'est importer de l'innovation. Si vous exportez depuis la France vers le monde, vous allez importer des innovations des consommateurs du reste du monde et vous allez améliorer ce que vous faites en France et le cercle vertueux s'enclenche.
Les exportations françaises, encore à la peine, c'était le reportage d'Anaël Verzo.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Les trous dans les comptes, ça nous inquiète. Hein. Le déficit commercial, le déficit budgétaire, tout ce qui fait que la dette explose. Et si nous avions tort de nous angoisser à ce point ? C'est la thèse de notre invitée ce matin, une économiste américaine, conseillère du démocrate Bernie Sanders, figure de proue de cette nouvelle théorie moderne de la monnaie. Bonjour Stéphanie Kelton.
Good morning. Thank you for having me.
Merci à vous de nous réserver votre première interview à l'occasion de la sortie de votre livre. Il paraît mercredi prochain, il a fait un carton aux États-Unis. Son titre, Le mythe du déficit, il faut nous expliquer parce qu'aujourd'hui, après le Covid, l'explosion des déficits des États, ça ressemble plutôt à un fait bien réel. Quel est donc ce mythe, Stéphanie Kelton ?
Well, the deficits are a reality, but
eh bien, les déficits sont une réalité, mais il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. Un déficit, eh bien, ce n'est que la différence entre deux chiffres, c'est tout. L'un de ces chiffres, c'est ce que dépense le gouvernement pour soutenir l'économie, et l'autre chiffre, ce sont les impôts que nous retire le gouvernement sous la forme d'impôts. Donc, en gros, un déficit, ça signifie simplement que l'État ajoute davantage qu'il ne soustrait de l'argent aux citoyens. Et du coup, les citoyens, eux, reçoivent cette aide. Par conséquent, le déficit de l'État devient un excédent budgétaire pour les citoyens. Et ça, c'est plutôt positif.
Mais en gros, un État, ça finance ses dépenses publiques avec les impôts, avec de l'emprunt, et on entend qu'il n'y en a jamais assez. Comment parvenez-vous à dire que l'argent n'est pas un problème ? Comment faites-vous ?
Well, for some governments, in fact, for
pour
many governments,
certains États, pour de nombreux États, en fait,
if we want to call it that, the currency comes from the government.
La monnaie est émise par le gouvernement. Un État est l'émetteur de sa propre monnaie. Bon, ce n'est pas vrai dans tous les cas. Par exemple, pour l'État français, ce n'est plus vrai. Mais cela s'applique aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon, en Australie, au Canada. Canada, tous les pays qui ont la maîtrise de leur devise nationale ne peuvent jamais arriver à court d'argent parce qu'ils émettent leur propre monnaie. En revanche, dans de nombreux pays européens, eh bien, ils ont renoncé à l'émission de leur propre monnaie. Ils font partie de l'Union monétaire européenne. Les contraintes sont donc différentes. Et quand on voit augmenter les déficits et la dette publique, oui, on peut s'en inquiéter. On peut voir ça comme un problème parce que ces États, ces gouvernements empruntent dans des devises qu'ils ne peuvent plus émettre.
Est-ce que on peut vraiment s'endetter sans limite? Vous avez vu ces derniers jours aux États-Unis, en particulier, le grand débat, c'est quand même la remontée des taux d'intérêt, peut-être même l'inflation.
Si vous parliez à Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, de la Fed, et si vous lui disiez que l'inflation risque de reprendre, eh bien, il dirait heureusement, c'est ça que veut la Fed. Bien sûr, la Fed ne veut pas que l'inflation soit non maîtrisée, mais il sera content de voir une plus grosse pression sur les prix, ce qui serait une indication d'une reprise de l'économie et que la reprise est soutenable, durable. C'est ça que veut la Fed. Donc, quand on parle des limites par rapport à la dette, oui, il y a une limite. Les déficits, bien sûr, ne resteront pas aussi énormes pendant si longtemps. On n'aura pas des déficits de 3 000 milliards chaque année pendant des décennies, mais on aura besoin de gros déficits pour soutenir l'économie jusqu'à ce que le redressement soit vraiment là. Et quand l'économie redeviendra prospère, eh bien les déficits rétréciront. Les gens retrouveront du travail, paieront des impôts et on pourra aussi soutenir les chômeurs, les employés dans des grands programmes. Donc la dette elle-même n'est pas un problème, les déficits se résorberont naturellement et ce n'est que la mesure historique, l'archive de toutes les interventions financières du gouvernement creusant des déficits pour soutenir l'économie.
Stéphanie Kelton, si on va au bout du raisonnement, si la dette n'est pas un problème, si l'État peut se financer tout seul, alors pourquoi diable est-il besoin de payer des impôts ?
Well, see, because taxes do a number of important things,
and I'll just point to two of the most important. Servent à plusieurs choses. J'en mentionnerai deux. Chaque dollar, chaque euro, chaque yen que prélève un gouvernement sur ses citoyens, eh bien, c'est de l'argent que n'auront plus ses citoyens pour acheter des biens et des services. Donc, le fait de prélever des impôts, eh bien, soulage un peu la pression inflationniste. En retirant de la circulation dans l'économie cet argent, on peut modérer les pressions inflationnistes. Et puis les impôts sont importants parce que ça peut permettre au gouvernement de jouer avec d'autres schémas de redistribution de la richesse. On peut prélever davantage d'impôts sur les plus riches, par exemple, ou au contraire, réduire les impôts sur les faibles revenus et les revenus moyens. Donc, les impôts ont un rôle de redistribution. Et puis, bien sûr, aussi sur le plan de l'inflation.
Parlons maintenant des critiques que vous suscitez. Il y en a beaucoup. Le prix Nobel Paul Krugman explique en gros qu'il ne comprend pas dans quel monde vous croyez vivre, Stéphanie Kelton. L'ancien secrétaire au Trésor du démocrate Bill Clinton, Larry Summers, met en garde contre votre économie vaudou, ce sont ces mots. En fait, la plupart des économistes vous reprochent d'avoir trouvé de l'argent magique. Comment est-ce que vous prenez ces critiques ?
Well, I think it's unfortunate.
Je trouve ça regrettable. Mes collègues, Paul Krugman et Larry Summers, savent très bien ce qu'il en est. Ils savent que le gouvernement américain peut se permettre d'autoriser les dépenses que souhaite le Congrès. Il n'est pas question d'argent magique. La théorie monétaire moderne ne prône pas un recours irresponsable à la planche à billets. En fait, il s'agit d'expliciter les mécanismes des finances publiques. J'explique aux citoyens comment cela fonctionne, le budget. Et la plupart des économistes, et j'en suis une, eh bien, prennent plaisir à rendre tout ça mystérieux, obscur. Ils ne veulent pas que les citoyens comprennent vraiment le fonctionnement des finances publiques. Ils veulent qu'ils croient que le budget d'un État fonctionne comme le budget d'un ménage. Ce n'est pas vrai. Et Paul Krugman, même après la grande crise financière de 2008, eh bien, il défendait le recours au déficit pour faire face à la crise. Mais pourtant, il nous mettait en garde. Les États-Unis risquent de connaître un scénario à la grecque. Larry Summers, lui, s'est opposé aux réductions fiscales proposées par l'administration Trump. Il a affirmé qu'on vivrait sur un budget extrêmement restreint pendant des décennies si on accordait ces réductions d'impôts et que lors d'une prochaine récession, le Congrès ne pourrait pas faire face à cette crise à cause du déficit creusé par les républicains. Et la réalité, c'est qu'ils avaient tort et que c'est la théorie monétaire moderne qui avait raison. La théorie monétaire moderne savait qu'on ne connaîtrait pas un scénario à la grecque. Et on ne pensait pas que ça priverait les États-Unis de moyens de défense pour faire face à une récession. De plus en plus, les citoyens comprennent que l'économie vaudou, eh bien, c'est celle des économistes traditionnels, les Cassandres, qui nous prédisent le pire avec l'accroissement de la dette et le creusement du déficit. Ce qui s'avère vrai, c'est que la théorie monétaire moderne avait vu juste et que ce sont les économistes traditionnels, mainstream, qui ont abusé de la confiance des gens.
Et du côté des hommes politiques, votre théorie, elle devrait les séduire. Ils n'auraient plus à faire des choix douloureux, l'austérité, les hausses d'impôts, à répéter « on n'a pas les moyens ». Et pourtant, c'est bien ce qu'on entend en ce moment. On entend « il faudra rembourser ». Est-ce que vous avez le sentiment d'être écouté par les hommes politiques, Stéphanie Kelton ?
Oh, absolument.
Et pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Je travaille avec plusieurs d'entre eux. Il y a eu un article dans le New York Times qui révélait que j'avais travaillé avec le sénateur Schumer, le chef de la majorité à la Chambre. J'ai travaillé avec lui et avec son staff pendant des mois. Je travaille également avec les présidents des commissions de la Chambre et avec de très nombreux législateurs. Mais je travaille aussi avec des politiciens dans d'autres pays. Vous savez, le monde change énormément. Et bien sûr, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de limite. Et les législateurs, les députés ne viennent pas avec enthousiasme vers moi en me disant « Ah, ben voilà, on rase gratis, on peut dépenser à l'infini de l'argent », mais non, parce que ce n'est pas le message de mon livre.
Toute dernière question, Stéphanie Kelton. Si je vous dis que votre théorie, soit elle sauve un État, soit elle le ruine, que me répondez-vous ?
Mais les théories, elles ne font rien. C'est l'action, l'action publique qui compte. Donc, si un État opte pour des politiques fiscales ou monétaires irresponsables, imprudentes, bien sûr, il peut y avoir des conséquences graves. Mais la théorie monétaire moderne, justement, parle de remplacer une contrainte imaginaire, la contrainte budgétaire, par une contrainte au niveau des ressources qui soit bien réelle. Donc, on voit très bien les limites, on les voit avec réalisme. Et si on n'identifie pas et si on ne respecte pas ces limites, bien sûr, on peut créer des problèmes dans l'économie, des problèmes avec votre monnaie, votre devise. Mais tout le projet, c'est justement d'identifier, de respecter ces limites, de sorte que vous aboutissez à une économie prospère, le plein emploi et une inflation faible et stable.
Ça s'appelle « Le mythe du déficit ». C'est édité au Lien qui libère et ça sort dans toutes les bonnes librairies mercredi prochain. Thank you. Merci, Stéphanie Kelton.
Merci.
Et merci à FDR pour la traduction. Je pense que le débat sur cette nouvelle théorie promet d'être vif. En tout cas, ça a déjà commencé sur le compte Twitter dont n'arrête pas l'écho. Allez, retour en France, ma vie au boulot. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra.
Une question de Bernard qui est cadre à Paris. Il n'a pas trop aimé, Bernard, son entretien annuel d'évaluation en visioconférence. Son employeur lui propose encore du Zoom. Cette fois, c'est pour l'entretien professionnel obligatoire. Est-ce que Bernard peut refuser, exiger un rendez-vous physique ?
C'est vrai Bernard, c'est la saison des entretiens et il y en a une belle brochette. L'entretien annuel d'évaluation, que tout le monde connaît, qui a plutôt lieu en fin d'année, sert à faire le point sur vos objectifs. Il n'est pas obligatoire, même si pour les salariés, il est très fortement déconseillé de s'y dérober. En visio, la qualité des échanges est évidemment moins bonne, la caméra ne restitue pas tous nos petits gestes, pourtant bien utiles pour faire passer des messages. Mais c'est pas fini, il y a 4 autres rendez-vous que les employeurs sont obligés de mettre en place. D'abord, entretien annuel sur le télétravail. En ce moment, c'est capital pour que des deux côtés, chacun prenne la mesure de la charge de travail et des difficultés éventuelles. La dernière étude réalisée par l'IFOP sur le travail à distance contraint confirme toutes les précédentes. Plus de la moitié des managers et des salariés interrogés estiment qu'il provoque un sentiment de désengagement. Ensuite, il y a l'entretien annuel obligatoire pour les cadres en forfait jour. L'entretien professionnel dont vous parlez, Bernard, qui a obligatoirement lieu tous les 2 ans. Et enfin, le bilan professionnel de ces entretiens professionnels qui, lui, se tient tous les 6 ans. Les entreprises sont sanctionnées si elles ne le font pas. Avec la pandémie, le gouvernement a accordé un report pour ces entretiens professionnels jusqu'au 30 juin. Et j'en viens à votre question, Bernard. Rien ne s'oppose, nous dit le ministère du Travail, à ce qu'il soit réalisé en visioconférence.
Et Sandrine, puisque vous parliez de sanctions, est-ce que Bernard encourt une sanction s'il le refuse, cet entretien en visioconférence ?
Eh bien, c'est complexe puisque les questions-réponses du ministère du Travail sont des recommandations. Elles n'ont pas force de loi et ce type de refus n'a pas encore été jugé. Mais dans la mesure où l'employeur respecte les consignes, c'est-à-dire vous informer à l'avance que cet entretien va se dérouler en visio et vous fournir un compte-rendu écrit, en principe, vous ne pouvez pas refuser. La situation est encore plus délicate pour les entretiens préalables au licenciement. En théorie, eux aussi peuvent se tenir face caméra, mais là, quand certaines cours d'appel les ont validées, d'autres les ont retoquées, il faut vraiment pouvoir démontrer que la visio se justifie par un cas de force majeure. Les avocats conseillent en tout cas aux employeurs de toujours proposer une alternative en présentiel. On est loin de l'entretien professionnel, Bernard, qui est censé être agréable. Se faire licencier en Zoom, ça rappelle le film In the Air avec George Clooney. Au cinéma, on trouvait ça cynique. Dans la vraie vie, c'est violent.
C'est vrai. Sandrine Foulon, ma vie au boulot.